le 7-9 de France Inter. Première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Et l'invité du grand entretien ce matin est donc la ministre du Travail. Dans une dizaine de minutes, amis auditeurs, vous avez la parole au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application mobile de France Inter. Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour.
Il y eut en début de quinquennat, il y a un an, la réforme du Code du Travail. Le deuxième volet arrive. Formation, apprentissage, assurance, chômage, le tout dans une loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Réexpliquer nous la logique, qu'on la comprenne bien. Après la flexi, voici venu le temps des sécurités.
Alors oui, c'est la saison 2, si j'ose dire, de la rénovation du modèle social qui avait prévu et sur lequel s'était engagé le président de la République. Et aujourd'hui, ce volet est fondamental pour l'émancipation sociale. Pourquoi ? Ça veut dire quoi, la liberté de choisir son avenir professionnel ? Pour un jeune, c'est pouvoir choisir un métier par passion et pouvoir se réaliser dans l'apprentissage, dans une voie professionnelle qui fait sens pour lui et qui lui donne envie de se lever le matin et de vivre quelque chose de passionnant. Pour un demandeur d'emploi, c'est d'avoir une protection contre le chômage. Et aujourd'hui, où la croissance repart, où il y a des entrepreneurs qui cherchent des compétences partout, la protection active, la meilleure des protections, c'est vraiment la compétence. Pour un salarié, c'est de pouvoir aussi avoir un espoir d'ascenseur social, de promotion sociale, ou de se prémunir aussi contre avec les évolutions technologiques, les métiers qui vont changer. Il y a des peurs aussi de dire, et ne pas subir, mais pouvoir choisir son avenir. Pour quelqu'un qui habite dans un quartier prioritaire de la ville, c'est enfin ne pas être un objet de discrimination, avoir accès à l'emploi. Dans une zone rurale, c'est pouvoir se former par Internet, avoir un conseiller par Internet, voire travailler en télétravail, en espace partagé. Pour les femmes et les hommes, c'est d'avoir le même salaire, parce que comment on peut être autonome, se projeter dans sa carrière si on n'a pas le même salaire ? Donc en fait, pour chacun, l'important, c'est de pouvoir concrétiser avec un droit très précis, en apprentissage, en formation, en assurance chômage, des droits nouveaux qui permettent une meilleure émancipation sociale, un meilleur ascenseur social.
Pascal Pavageot, on l'entendait dans le journal de 8h, le nouveau patron de Force Ouvrière, critiquait dans ce texte une logique d'individualisation. Vous venez de décrire un certain nombre de situations individuelles et la mise en concurrence de tout et de tous contre tous. Région, disait-il, individu, entreprise, il n'y a plus de socle commun, il y a désormais des individus atomisés dont le but est de s'entrechoquer.
Je suis un peu étonnée parce que la grande partie de ces droits ont été proposés par les partenaires sociaux et Force Ouvrière faisait partie de ces partenaires sociaux.
À l'époque ?
Non, ils ont signé Force Ouvrière et c'est le bureau confédéral qui a signé cet accord avec les autres syndicats et le patronat. Et je crois qu'il ne faut pas confondre la personne et l'individualisation. C'est-à-dire qu'il faut des garanties collectives. Ça, c'est bien des droits garantis collectivement. Parce que pour pouvoir permettre que chacun puisse se former tout au long de sa vie, il faut une mobilisation collective, il faut des moyens collectifs au service de chacun. Et donc, moi, j'ai du mal à dire que... je trouve que c'est étrange de dire, par exemple, à un travailleur handicapé qui ne peut pas accéder à la formation aujourd'hui, ils sont 500 000 à Pôle emploi, que lui, ça serait... être individualiste, qu'avoir droit à la formation pour lui aussi accéder à l'emploi. Non, au contraire, ouvrir des droits à tous, les garanties collectivement, je pense que c'est un vrai sujet d'émancipation sociale.
D'après les dernières statistiques, Muriel Pénicaud, le nombre de chômeurs en formation a baissé. Pourquoi ? Et est-ce qu'un texte comme celui que vous portez permettra désormais d'éviter cette double peine ?
Alors aujourd'hui, la France a pris du retard depuis des années. Depuis une dizaine d'années, on ne forme que 10% des chômeurs chaque année. Or, on voit bien, il y a de l'emploi, la croissance repart. Et pour pouvoir les prendre, il faut avoir les bonnes compétences. Et donc, c'est essentiel d'investir sur la formation. Pour ça, on fait deux choses.
Mais pourquoi ça baisse alors ?
Non, c'est autour de 600 000, 800 000 en permanence. Mais pour ça, c'est pour ça qu'en plus de la loi, qui va ouvrir des droits, mais il faut le temps qu'ils se mettent en œuvre, et qui permettra d'ailleurs à des demandeurs d'emploi, outre les formations financées par la région et Pôle emploi, mais de décider de ses propres formations. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc c'est donner les moyens à chacun. Mais aussi, nous investissons tout de suite, pour les 5 ans qui viennent, dans le grand plan d'investissement dans les compétences, qui va permettre de former 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi. Donc on est au contraire, en plein développement. Il y a quelques jours, avec Mounir Majoubi, on a lancé les 10 000 premières formations numériques. Il va y en avoir dans le monde écologique, il y en aura dans l'inclusion sociale. On va dire, tous les mois, on va lancer des nouvelles initiatives grâce à ce plan d'investissement compétences qui va permettre à beaucoup plus de chômeurs de se former. Ils ont raison, c'est un accès à l'emploi, c'est un passeport pour l'emploi.
Pourquoi pas de bonus, malus vraiment sévère sur les contrats courts, Muriel Pénicaud ? Ça serait une sécurité au moment où d'autres choses sont flexibilisées.
Alors, vous avez raison, il y a la quantité d'emplois, que beaucoup plus de gens accèdent à l'emploi, puis il y a la qualité de l'emploi. La qualité de l'emploi, c'est les CDI, c'est plus de CDI et moins de CDD et d'intérim. Pour la première fois depuis le dernier trimestre 2017, les nombres de CDI augmentent. Néanmoins, nous considérons effectivement qu'il y a un recours excessif à l'emploi précaire, donc CDD, intérim, et c'est vrai que c'est difficile quand on est en CDD, en intérim, d'emprunter, d'avoir un logement, d'être autonome. Pour ça, on a demandé aux partenaires sociaux de réfléchir sur le bonus-malus. Ils nous ont dit, laissez-nous jusqu'à la fin de l'année pour qu'on trouve des solutions dans les branches les plus concernées. Donc on l'a dit, oui, jusqu'à la fin de l'année. Par contre, le projet de loi prévoit que s'ils ne aboutissent pas en fin de l'année, à ce moment-là, le gouvernement pourra prendre des mesures de type bonus-malus.
On l'entendait dans l'édito écho de Dominique Seux, les chiffres de la croissance sont plus faibles que prévu. Un certain nombre d'indicateurs indiquent que ça commence un peu à se tasser, même s'il reste de la croissance. Est-ce que ça vous inquiète déjà, cet élément de conjoncture économique ?
Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on n'arrive pas à profiter de la croissance qui est quand même là, parce que 2% de croissance, on n'a pas connu ça depuis très longtemps. On a créé plus d'emplois l'année dernière qu'avant la crise, donc on a quand même une tendance forte. Mais il y a beaucoup de marchés qui ne sont pas pris, faute de compétences. Donc la double peine, ça serait une croissance qui se ralentit parce qu'on ne sait pas transformer la croissance en emploi et donc en société inclusive. Donc c'est pour ça que le sujet des compétences, il est complètement stratégique. Pour que les entreprises puissent croître et créer des emplois, il leur faut les compétences. Mais il faut aussi pour chacun, parce que pour un salarié qui voit les évolutions qui arrivent, pour un demandeur d'emploi qui se dit « mais le train de la croissance repart, mais moi là-dedans, est-ce que je peux en bénéficier ?» Donc c'est pour ça que ce sujet est aussi stratégique aujourd'hui.
Mais vous êtes certaine que si cette croissance qui repart ne crée pas d'emplois ou crée des emplois de mauvaise qualité, c'est uniquement lié à des enjeux de formation. Ce n'est pas un type de croissance improductive en termes d'emploi.
Alors,
ça existe.
D'abord, l'année dernière, on a créé 268 000 emplois. Moi, j'attends les chiffres de l'INSEE trimestriel. Je les commenterai le 12 juin. Dans les rendez-vous de Grenelle, comme tous les trimestres, je prends une référence et on garde la même. Parce que pour comparer la tendance, il faut garder la même. Mais je pense qu'il y a des sujets de mobilité, il y a des sujets de discrimination, et qui sont des freins à l'emploi.
Mais de type de croissance aussi peut-être. Une croissance qui ne produit pas l'emploi ou le plein emploi.
Eh bien, c'est pas ce que montre l'année 2017, c'est pas ce qui est montré aujourd'hui. Mais on part de très loin en France. On a 20 ans de chômage de masse. Donc on a encore 2 700 000 personnes au chômage. Donc on est au début de l'inversion de la courbe. Donc il faut se mobiliser à fond, en particulier sur les compétences.
Le plan Borloo, vous en disiez un mot, a été remis hier au Premier ministre. Dans le quotidien Le Monde, Jean-Louis Borloo déclare que seulement 12% des entreprises de plus de 250 salariés respectent l'obligation d'avoir 5% d'apprentis. Il y a quelques chiffres, mais on voit bien quelle est la logique. Voilà ce que dit Jean-Louis Borloo. Je propose de mettre en place de vraies sanctions, d'une extrême violence, si ces entreprises ne s'y conforme pas donc à leurs obligations dans les 2 ans. Allez-vous le suivre sur ce point, Muriel Pénicaud, et mettre en place donc ces sanctions d'une extrême violence?
Alors, il y a 2 sujets qui concernent l'apprentissage dans les quartiers prioritaires de la ville. D'abord, il y a un scandale, c'est que les jeunes qui sont en quartier prioritaire de la ville, qui en moyenne ont été moins longtemps à l'école, donc sont déjà pénalisés par rapport à l'emploi, eh bien, ils ont moins accès à l'apprentissage que les autres. Et ça, c'est quelque chose dans le projet de loi, avec les régions, avec les partenaires sociaux, avec les centres de formation d'apprentis, sur lequel on va s'investir à fond. Parce qu'il faut que tout jeune puisse choisir un métier de passion. Hier, j'étais à Dijon, à l'école des métiers, il y avait 1200 jeunes collégiens qui brille. Et puis après, il y a le sujet des grandes entreprises. Après, dans le projet de loi, on prévoit toute une série de mesures pour que les petites et moyennes entreprises puissent investir plus sur l'apprentissage, c'est elles qui créent des emplois. Et puis les grandes entreprises, ce qu'on leur demande, c'est pas simplement de prendre des apprentis pour eux, mais aussi de former. Ils pourront créer des centres de formation pour former aussi les jeunes qui travaillent chez leurs fournisseurs, dans leur écosystème. Donc la responsabilité des entreprises, oui, elle va grandir, mais ça n'est pas que pour former en interne, c'est aussi développer. Donc tout ça, on va le regarder, on a les propositions depuis hier, et on verra si dans le cadre du projet de loi...
Mais est-ce que les entreprises, les grandes entreprises, ont besoin de mesures d'extrême violence pour qu'elles aient, non pas un comportement vertueux, mais un comportement normal?
D'abord, moi je suis non violente. Je crois à l'exigence, pas à la violence. Juste une question de vocabulaire, mais je trouve qu'on a assez de violence de cette société. C'est pas la peine de rajouter. En revanche, je pense que oui, la responsabilisation des grandes entreprises. Vous savez, on vante toujours l'Allemagne ou la Suisse pour l'apprentissage, mais les entreprises, elles trouvent ça normal de former des jeunes. Hein. Mmh. Elles savent que c'est l'avenir du pays et l'avenir de leurs compétences. Donc ça fait tout ça, ça va faire partie des débats à l'Assemblée nationale sur comment. Toutes les entreprises se mobilisent pour les jeunes. On peut pas continuer dans ce pays à avoir plus d'un million de jeunes qui se projettent pas dans l'avenir, qui sont pas en emploi, pas en formation. Mmh. C'est dramatique. Et là, il faut vraiment se mobiliser là-dessus, tout le monde, y compris les grandes.
Alors, j'ai énormément de questions encore à vous poser, mais on va donner la parole tout de suite aux auditeurs de France Inter. Au 01 45 24 7000, Jean-Charles est au standard. Bonjour et bienvenue Jean-Charles.
Bonjour.
On vous écoute.
Voilà, moi je suis salarié à Pôle emploi. Madame la ministre,
Bonjour.
Vous avez demandé à Pôle emploi, comme dans beaucoup de ministères et au sein de votre ministère, une réduction des effectifs de 300 emplois cette année. L'année prochaine, jusqu'à 2022, vous demandez encore des économies d'effectifs au sein de notre institution. Il semble que 4000 postes soient demandés à retourner au ministère, et donc la suppression de 4000 postes à Pôle emploi semble sur la trajectoire. Comment faire plus, y compris avec votre projet de loi, avec toujours moins de moyens au sein du service public? C'est une équation à laquelle nous sommes soumis depuis plus de 20 ans. Ne croyez-vous pas aujourd'hui, Madame la Ministre, qu'il est temps de geler le plan de réduction des effectifs à Pôle emploi?
Merci Jean-Charles pour cette question. Muriel Pénicaud vous répond.
D'abord, j'en profite pour saluer le travail. Je vois beaucoup d'agences Pôle emploi et il y a une mobilisation, un engagement très grand des agents de Pôle emploi pour lutter contre le chômage. Je le vois tous les jours. La trajectoire que vous évoquez n'est pas encore définitive. On est en train de travailler sur des hypothèses. Il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est que si le taux de chômage baisse significativement, s'il y a moins un million de moins de chômeurs, il est logique qu'il y ait moins besoin d'accompagnement. Mais c'est lié. Et c'est lié à la baisse des chômages, à condition que la baisse du chômage ait lieu, ce qui est notre but à tous. Et puis deuxièmement, il y a effectivement des nouvelles missions, mais je pense qu'aussi qu'il y a des nouvelles organisations. Je pense notamment à l'initiative qui est prise au sein de Pôle emploi de laisser beaucoup plus de liberté aux agences de Pôle emploi pour pouvoir innover. Et ça, ça permet d'être plus efficace avec les mêmes effectifs. Ça fait aussi des réflexions sur comment Pôle emploi évolue.
Toujours sur Pôle emploi, Catherine, via l'application France Inter. Madame la ministre, vous avez embauché 800 agents Pôle emploi pour traquer les tricheurs parmi les chômeurs. Mais combien d'agents des finances avez-vous embauché pour traquer les évadés fiscaux?
Alors, c'est Muriel pas chez Pénicaud. Pôle emploi qu'on contrôle les évadés fiscaux.
Vous voyez la logique de la question.
Oui, la logique de la question. Il y a un grand renforcement à Bercy de la lutte contre l'évasion fiscale. Mais c'est pas pour traquer les chômeurs. Je pense que c'est comme dans la protection sociale, à la sécurité sociale, c'est comme aux impôts, effectivement. Tout droit amène des devoirs, c'est normal qu'il y ait un contrôle. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que les contrôles qui ont été faits par Pôle emploi, depuis 2 ans, ont montré qu'en fait, le contrôle servait aussi à découvrir qu'il y avait des gens qui étaient découragés, parce qu'ils avaient essayé, ils avaient fait plein de démarches, ça marchait pas, ils avaient baissé les bras, puis on les accompagnait plus. Donc en fait, on s'est aperçu que dans les contrôles, en gros, 66% cherchaient un emploi, 20% étaient découragés, ça a permis de remettre de l'action pour les aider à trouver un emploi, et 14% effectivement ne voulaient pas réellement chercher un emploi, c'est normal qu'il y ait des droits et des devoirs.
Allez, on retourne au standard. Bonjour Isabelle.
Bonjour France Inter, merci pour vos émissions. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Donc, juste un petit témoignage pour dire qu'il était temps de réformer un système qui finance des centres de formation où les jeunes ressortent comme ils sont entrés. Ouais. Je suis moi-même formatrice dans un centre de formation agricole. Et nous préparons des jeunes dans des toutes petites structures, un patron, un ouvrier, un apprenti. Et on se pose beaucoup de questions sur comment on va être financé, et puisque M. Muselier, comme vous le savez, a tout de suite dit qu'il allait cesser le financement des investissements. Donc comment ça va fonctionner pour nous?
Merci Isabelle pour cette question. Muriel Pénicaud.
Merci pour votre question parce qu'elle est très importante. Il faut qu'il puisse y avoir des centres de formation d'apprentis partout sur le territoire. Je dirais même plus qu'aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, par exemple, qu'il n'y en a pas assez en quartier prioritaire de la ville, et en zone rurale, c'est inégal. Alors, demain, dans la réforme, il y a deux choses très importantes. Il y a une chose, c'est que il y aura une grande péréquation, c'est-à-dire en fait on fait un pot commun mutualisé qui permettra qu'à chaque fois qu'il y a un jeune et une entreprise qui signe un contrat, partout sur le territoire, plus personne pourra dire non. Il y aura le financement du centre de formation d'apprentis. Mmh. Par exemple, les maisons familiales rurales, qui sont très implantées au milieu rural, ou les compagnons du devoir, savent, grâce à ça, qu'ils vont pouvoir développer en zone rurale. Après, le financement, il y a quelques régions, les régions sont plus ou moins contentes de cette réforme, c'est leur droit. Ce que je veux dire à tout le monde, c'est que en 2018 et 2019, les financements ne changent pas. Donc les régions ont même plus d'argent qu'avant pour continuer à le faire. Et la bascule en 2020 permettra d'avoir plus d'argent partout, pour que ce soit dans une chambre de métier, une zone rurale, on ait partout de l'argent pour former les jeunes.
Toujours sur cette question de l'apprentissage, sur l'application d'Inter, Marion vous demande, vous dit la chose suivante et vous pose la question. Vous dites simplifier un système opaque sur le financement de l'apprentissage, mais qui contrôlera les établissements de formation sur l'utilisation de tout cet argent? Elle poursuit actuellement les organismes collecteurs de taxes d'apprentissage, vérifie chaque dossier et accompagne les entreprises dans ces démarches. Les entreprises vont se retrouver bien seules face aux sollicitations parfois agressives des établissements de formation. Je vous livre la question, Muriel Pénicaud.
Alors, tous les organismes de formation et tous les centres de formation d'apprentis, pour pouvoir bénéficier des fonds mutualisés ou des fonds publics, devront être certifiés. Donc il y aura un système de certification de la qualité. Bien évidemment, c'est une question importante. Et puis, de l'autre côté de la chaîne, si j'ose dire, chaque famille, chaque jeune ou chaque demandeur d'emploi, chaque salarié aura accès sur une application numérique au taux de réussite au diplôme, de taux de réussite dans l'emploi. Ça va permettre aussi de contrôler la qualité par le haut, mais aussi par chacun, en ayant la transparence sur les résultats. Car effectivement, aujourd'hui, il y a des choses d'extraordinaire qualité, il y a des choses qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle qualité.
Beaucoup de questions au standard ce matin. Bonjour Brigitte.
Oui, bonjour.
Et bienvenue, on vous écoute.
Bonjour Monsieur de Morand, bonjour Madame Pénicaud.
Bonjour Madame.
Je suis la présidente de l'association syndicale des centres de bilan de compétences. Oui. Je fédère des centres de bilan privés, des petits centres, qui accompagnent donc depuis 91, depuis la loi sur les bilans, des milliers de personnes, salariés, demandeurs d'emploi, pour faire le point sur leurs compétences, développer un projet et retrouver du travail. Pas une seule fois dans votre projet de loi ne figure le terme bilan de compétences. Donc nous avons interpellé à plusieurs fois sur ce sujet.
Et vous le refaites à l'antenne de France Inter.
Et nous nous demandons pourquoi on ne s'appuie pas sur les centres de bilan de compétences, sur une réelle expertise. Et nous avons aussi, j'ai aussi une autre question, puisque vous parlez effectivement des demandeurs d'emploi, des accompagnants des demandeurs d'emploi, il est très difficile actuellement de mettre en place un bilan de compétences pour les demandeurs d'emploi.
Merci Brigitte pour cette question. Muriel Pénicaud vous répond.
Alors le bilan de compétences fait partie des outils, j'ai une petite responsabilité dans sa mise en place dans la loi il y a 25 ans, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. On ne change pas le dispositif actuel, où effectivement ça permet à des personnes de faire le point et de se projeter aussi, de connaître aussi leur qualité, mais ces compétences-là vont se développer sous plusieurs formes. Dans l'apprentissage, on veut aussi, comme dans la formation continue, il faut qu'on tienne compte non seulement du bilan de compétences, mais du bilan de compétences de formation. Oui. Aujourd'hui, on fait refaire des formations complètes alors qu'on a les besoins. Et dans le compte personnel de formation, vous savez, chacun sur une appli pourra avoir son compte et payer une formation. Il pourra payer aussi un conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir être conseillé dans son choix de formation ou son choix de carrière.
Jérômine est au standard. Quel joli prénom. Bonjour et bienvenue.
Oui, merci. Bonjour à toutes et tous.
Bonjour.
Alors, je suis en apprentissage, donc en licence en apprentissage à Sciences Po Strasbourg. Oui. Et il est très difficile de trouver aujourd'hui un apprentissage. Je me suis déjà fait évincer d'une formation parce que j'avais pas trouvé de maître en apprentissage. Donc, c'est très difficile pour nous d'en trouver en ce moment. Et puis, je voulais savoir si vous allez faire quelque chose par rapport à ça. Et deuxième question, là, donc je suis en licence, je voudrais continuer en master, en alternance, en apprentissage. Et, aux surprises, il n'y en a pas ou très peu. Et du coup, on est obligé de rester en licence et de ne pas accéder aux études supérieures parce qu'il n'existe pas de contrat en apprentissage en master.
Est-ce que vous avez une question ou est-ce que vous vouliez juste témoigner de cet état de fait, Jérômine?
C'est pour savoir s'il allait y avoir des améliorations justement bientôt, dans les lois à venir.
Merci beaucoup pour votre intervention, Muriel Pénicaud.
Alors, l'enseignement supérieur développe beaucoup l'apprentissage. Aujourd'hui, il y a 150 000 apprentis dans l'enseignement supérieur. C'est une manière d'avoir les mêmes diplômes en ayant 2 ans d'expérience et en étant autonome financièrement. C'est aussi parfois une manière de payer ses études. Ça se développe de plus en plus. Il y a des masters, il y a des ingénieurs, pas partout. Les universités vont pouvoir aussi le développer parce que le système de financement permettra à toute université de développer des contrats en apprentissage. Et puis, on va renforcer le rôle des régions pour travailler avec les universités, les collèges et les lycées pour avoir une information qui permet de mettre aussi mieux en contact les entreprises qui cherchent des apprentis et les jeunes qui cherchent un apprentissage, car des deux côtés, on en cherche et on ne trouve pas toujours.
Alors, avant de donner la parole à Laetitia au standard, Christophe, sur l'application France Inter, pouvez-vous expliquer la logique du transfert de la compétence de l'orientation aux régions alors que vous leur retirez celle de l'apprentissage, Muriel Pénicaud?
Alors, les régions dans le projet de loi, les régions ont des compétences renforcées et d'autres, on considère que c'est le rôle du jeune et de l'entreprise directement, qu'il n'y a pas besoin de passer par des tas d'intermédiaires. Ce qu'on considère comme pas d'intermédiaire, c'est que si un jeune, une entreprise, il n'y a pas besoin que quelqu'un dise oui ou non au financement, il faut qu'il puisse se former. En revanche, l'orientation, il faut que les régions qui ont une mission de développement économique avec les collèges et les lycées, c'est pas contre, c'est pas en dehors, c'est avec, puissent, ce qui se fait déjà à beaucoup d'endroits, développer la connaissance des métiers. Parce que beaucoup de jeunes ne savent pas comment choisir leur avenir, ils ne connaissent pas les métiers. Pour ça, il faut faire venir les entreprises, il faut faire venir des apprentis, des anciens apprentis qui vont témoigner. Et il n'y a rien de tel pour découvrir un métier que de rencontrer des gens qui l'ont fait. Donc le rôle des régions dans ce domaine-là, ça sera de faire toute cette mise en relation avec l'éducation nationale.
Une dernière question rapide et réponse rapide, s'il vous plaît. Laetitia, bonjour.
Bonjour Monsieur Desmorand, bonjour Madame Pénicaud.
Bonjour.
Voilà, trouvez-vous normal, je suis chômeuse de longue durée depuis 4 ans et demi, je bénéficie de l'ASS depuis maintenant 2 ans et demi. Trouvez-vous normal que je doive remplir tous les 6 mois, renvoyer le même papier qui est mon avis d'imposition sur le revenu, qui ne change pas de sans arrêt. Trouvez-vous normal que je, au bout de 3 ans de chômage, la mentalité française fait qu'on me dit vous avez le profil idéal, mais vous avez 3 ans de chômage, donc on ne vous prend pas. Trouvez-vous normal que au-delà de ça, moi je fais une formation parce que j'ai été convoquée seulement 3 fois au Pôle emploi en 4 ans et demi, j'ai changé 4 fois de conseiller, je ne suis pas informée de mes droits. Trouvez-vous normal que je décide de faire un MBA pour me reconvertir et que derrière l'école me dit mais vous avez droit à ce que le Pôle emploi vous finance une partie de cette formation et que j'appelle le Pôle emploi et qu'on me dit ah non, il fallait prévenir un mois avant.
Merci.
Trouvez-vous tout cela normal?
Merci Laetitia, on entend votre colère, Muriel Pénicaud vous répond.
Je pense comme vous que les droits à la formation, ils doivent être beaucoup plus importants pour les demandeurs d'emploi comme pour les salariés. Parce qu'aujourd'hui, un demandeur d'emploi, un ouvrier, un employé, il a moins de droits à la formation que les autres. Et tout le monde en a auto-besoin. Ça, c'est aussi le projet de loi et le plan d'investissement compétences. Et je pense aussi qu'il faut qu'on travaille sur les mentalités et la croissance y aide. Pour dire, c'est pas parce que quelqu'un était au chômage il y a 3 ans qu'il est inemployable. Si on lui donne les moyens de se former, il peut trouver un emploi. Il y a plein d'exemples de réussite. Et je serai avec les demandeurs d'emploi pour se battre contre cette fausse fatalité où on croit que parce qu'on a été au chômage 3 ans, on ne peut plus retrouver un emploi. Mais c'est pas vrai et il faut se battre contre ça.
Merci Madame la Ministre du Travail d'avoir noué ce dialogue dense avec les auditeurs de France Inter qui étaient très nombreux ce matin à vouloir vous interroger. Muriel Pénicaud, donc merci encore.